À Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est une émission spéciale qui tourne autour de la prière. On peut se demander parfois pourquoi on doit demander à Dieu quelque chose s'il sait tout. Il devrait savoir ce dont on a besoin. Et de toute façon, on sait fort bien que quand on lui demande quelque chose, on ne l'obtient pas toujours loin de là. On obtient autre chose. On obtient quoi? Une espérance, une confiance et finalement un apaisement. On le voit dans les grands centres de pèlerinage, où il y a des foules immenses et peu de miracles, très peu de miracles finalement. À Lourdes, il y a très peu de miracles, somme toute, même s'il y en a beaucoup dans un autre sens. C'est que chacun qui retourne a comme un supplément d'âme, un supplément de confiance et de joie à avoir prié, à avoir finalement appris à aimer davantage Dieu qui nous aime au creux de notre souffrance. On peut se dire, finalement, est-ce que la prière est indispensable? Vous savez, quand on interroge les chrétiens sur leur vie de prière, ils répondent généralement qu'il leur arrive assez souvent de lancer vers Dieu un cri, bon, oui, d'accord. Et puis, c'est un cri de détresse. Hein? « Seigneur, au secours !» Ou bien un chant de reconnaissance. « Mon Dieu, merci. » Ça nous arrive souvent, c'est quand on évite un accident, il nous arrive quelque chose de difficile et puis on risque d'avoir un problème et on dit « Mon Dieu, merci. » Et parfois même, ça tourne même au cantique de louange. Et devant un magnifique coucher de soleil, leur âme spontanément se met à murmurer « Mon Dieu, que c'est beau. » Que c'est beau, hein? Et c'est vrai que c'est beau. Ou devant, simplement, de petites choses très simples, comme là, c'est le printemps bientôt et les fleurs vont sortir, et on va avoir un sentiment d'exaltation devant la beauté, mais surtout devant la naissance d'un enfant. Et par contre, la plupart des chrétiens avouent qu'ils ne pas s'arrêter souvent pour prier longuement dans une espèce de cœur à cœur d'une prière silencieuse. C'est une prière, ça, que la tradition chrétienne appelle « oraison ». Et c'est curieux qu'il y ait si peu de gens qui pratiquent l'oraison, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Hein, c'est pas nécessaire d'aller beaucoup au-delà d'un quart d'heure. Une demi-heure, c'est mieux, mais un quart d'heure. Il y en a qui s'affligent de ça. Ils voudraient bien le faire, mais ils disent qu'ils n'en ont pas le temps. Et d'autres ont commencé, mais n'ont pas persévéré, parce que c'est pas facile la persévérance dans l'oraison, dans le fait de s'arrêter et d'être avec Dieu. C'est peut-être un manque de méthode aussi, ou de courage, ou de régularité. D'autres, enfin, les plus nombreux, sans doute, ne sont vraiment pas persuadés que cette forme de prière, là, silencieuse, soit nécessaire à leur vie. Oh, ils ont découvert, d'accord, la nécessité de s'arrêter périodiquement, là, pour se décontracter. On enseigne ça de plus en plus, qu'il faut, se coucher sur le dos, se calmer les nerfs, quoi. Ils ont expérimenté les bienfaits d'une vraie détente en fin de semaine aussi, ou durant leurs vacances, quoi, même si prolongé, là. Se détendre. Et ils savent que pour éviter l'infarctus ou la dépression nerveuse, bien, il est indispensable d'échapper de temps en temps à toutes les agressions que qu'on reçoit de cette vie moderne difficile. Aussi, on les voit se livrer le dimanche matin, très nombreux, beaucoup plus nombreux que ceux qui vont à l'église. Ils se livrent à leur sport favori, c'est annoncé partout, on en parle à la télévision, à la radio, dans les journaux, toutes ces promenades, le ski de fond, etc., la course à pied, ou les randonnées à bicyclette, maintenant les pistes cyclables sont tellement nombreuses. Mais ils ne sont pas persuadés que leur âme a tout autant besoin, et même plus, on pourrait dire, d'un bain de jouvence. Oui, un bain de jouvence pour rajeunir leur âme chaque semaine, de replonger fréquence, on pourrait dire, dans cet océan divin, de faire de la plongée sous-marine en Dieu. Quand ils entendent parler de cela, ils pensent immédiatement que des pratiques comme celle-là, c'est pas pour eux, prier, aller à l'église en priant, pas pour assister à la messe simplement, non, non. et qu'elles sont réservées à des tempéraments mystiques. Ils ne sont même pas loin de penser qu'elles sont le signe d'un certain déséquilibre affectif. Que c'est le fait de gens qui sont déçus par la vie. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment, ce n'est pas pour nous. Nous sommes des hommes d'action, des femmes qui ont autre chose à faire dans la vie que de... Ils vont même jusqu'à dire que de niaiser. Et dur, c'est qu'ils n'ont plus la foi. Et ceux qui ont la foi ne se rendent pas compte de l'importance. Ils disent qu'ils ont la foi, mais qu'ils pratiquent pas. Pourtant, c'est un ordre explicite de Jésus-Christ, quand on y pense, hein? Au moins pour ce qui est de la prière solitaire. Hein? Il dit, toi, pour prier, retire-toi dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et c'est dans Saint Matthieu, si vous cherchez le texte, au chapitre 6. Alors, le fait est là, Jésus nous demande de prier pour fermer sa porte, presque à clé, au fond. Et tous les saints nous ont dit que c'est une chose extrêmement importante que la prière personnelle est prolongée. Imaginez ce que disait Thérèse d'Avila, je vous le répète, Thérèse d'Avila qui a vécu au 16e siècle en Espagne, la plus grande mystique peut-être de l'histoire de l'Église, la plus grande sainte peut-être, pour son union à Dieu. Elle a raconté ça, elle a écrit des choses absolument admirables, ça a été analysé même par des psychiatres qui se sont convertis après avoir étudié ça. Mais elle dit « Tous les biens me sont venus par l'oraison ». Et cette prière secrète et silencieuse est d'autant plus nécessaire, que nos activités sont nombreuses, puis qu'elles nous absorbent, parce que pour parvenir à prier au cœur même de nos travaux, comme saint Paul nous le demande dans la première épître aux Thessaloniciens, il est indispensable de nous retirer régulièrement dans un lieu silencieux pour un cœur à cœur véritable avec Dieu. Jésus lui-même le faisait, hein, c'est dit au tout début de l'évangile de saint Marc, verset 35 du premier chapitre. Il dit, le disciple ne doit pas se considérer comme plus fort que le maître. On doit faire comme Jésus. Si Jésus nous demande de nous retirer dans un lieu solitaire pour prier, c'est que c'est possible. Oui, ça se fait. Oh, peut-être il y a des appartements où c'est plus possible parce qu'on est 7-8 dans un 3 pièces, puis il y a toujours 2 télévisions qui jouent et 4 radios. Mais bien des objections arrêtent les chrétiens sur le chemin de l'oraison. Hein? Il y a des objections. Oh, je n'en ai pas envie, j'en ai pas le temps, j'ai essayé, c'est trop difficile. Je ne sais pas faire silence, ou bien je n'en ai pas le droit. N'en ai pas le droit. Devant l'immensité des misères à soulager, dit-on, puis toutes les choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de gens qui disent, beaucoup de chrétiens qui croient que l'oraison est du temps volé aux autres. Alors, on peut prier, oui, d'accord, mais juste le temps nécessaire à recharger les batteries de son moteur spirituel. Vite, vite, vite. La prière devrait ressembler à ces espèces de... Vous savez, on a vu ça à la télévision ces jours-ci, là, les haltes rapides effectuées par Jacques Villeneuve, là, vous savez, les coureurs automobiles. Dès que les réservoirs d'essence le sont remplis, puis les pneus ont été changés, ils repartent à toute allure sur la piste. Hein? Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de nous? Il suffirait de consacrer le plus de temps possible au service de nos frères, disent-ils. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, cette parole admirable, ils l'ont au cœur. Alors, bon, ils croient que Jésus ne nous a pas enseigné que le second commandement était moins bon que le premier, aimer son prochain. Alors quoi? Alors, il faudrait en conclure que la seule façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain, un point, c'est tout. Et prier, ben, peut-être, de temps en temps, quand on a le temps. Et cette interprétation, qui séduit beaucoup de gens, elle semble donnée par saint Jean, lui-même, dans sa première épître, parce que quand on lit ce texte, on a l'impression que l'apôtre Jean résume toute la vie chrétienne en 2 verbes, hein, croire à l'amour de Dieu pour nous et aimer nos frères comme Dieu les aime, comme Dieu les aime. Et est-ce qu'il ne faut pas en déduire que... Avec la Nouvelle Alliance, là, le Nouveau Testament, depuis 2000 ans, bien, Dieu ne demande plus aux hommes de l'aimer, de passer du temps à prier, mais uniquement de croire à son amour, croire à son amour, et de consacrer tout son cœur et toutes ses forces à aimer ses frères, à changer la société. En somme, tout son temps doit être consacré aux œuvres de justice et au travail auprès des pauvres. C'était la pensée de Luther, savez-vous. Nous ne sommes, aimait-il répéter, que de simples tuyaux entre la miséricorde de Dieu et la misère des hommes. Le chrétien a pour mission essentielle de servir de canal entre les torrents de la miséricorde divine et un monde qui meurt de soif faute de les recevoir. C'est une interprétation d'ailleurs qui a été reprise par un théologien luthérien contemporain dans un ouvrage important, Eros et Agapé, publié chez Aubier en 3 volumes entre les années 1944-1952. Et ce théologien, il fait remarquer que dans le Nouveau Testament, le théologien luthérien, le mot amour, ou agapé, l'agapé comme on dit souvent, désigne presque toujours l'amour de l'homme pour ses frères, ou de la femme pour ses sœurs, si vous voulez. Un amour qui doit être à l'exemple de celui de Dieu pour nous. Une charité désintéressée s'adresse de préférence aux plus pauvres, aux plus démunis. Et Dieu ne nous demande donc pas de l'aimer, mais simplement de croire en son amour, d'avoir confiance en lui, puis d'aimer nos frères. Et la seule façon de l'aimer, d'après eux, là, de façon authentique, c'est d'aimer les hommes et les femmes. C'est la vie de Luther et ses théologies luthériennes. C'est très beau dans un sens. Hein? On voit bien toute la part de vérité qu'il y a dans cette lecture du Nouveau Testament. L'amour des autres, c'est effectivement la pierre de touche de notre amour de Dieu. On le voit dans la première épître de Saint Jean. Et on sait qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Jean ne cesse de rappeler l'urgence du commandement nouveau, hein, que Jésus a proclamé au cours de son dernier repas, la veille de sa mort. Hein. Mais Jésus n'est pas venu abolir le commandement que l'on trouve dans le Deutéronome. Oui, un des premiers livres de la Bible. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et en élevant le précepte du Lévitique aussi, c'est dans l'Ancien Testament encore, dans les premiers livres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En élevant donc ce précepte à la dignité de second commandement, semblable au premier, Jésus, il n'y a pas renversé la grande valeur et la primauté du premier commandement d'aimer Dieu. À plus forte raison, il ne l'a pas supprimé d'ailleurs, et nous sommes toujours appelés à trouver en Dieu notre joie essentielle. Oui, puis à apprécier plus que tout sa présence, c'est là-dessus qu'on va insister tout le long de l'émission, sa présence, puis à lui redire, devant ta face, ô mon Dieu, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Il s'agit donc dans la prière chrétienne d'apprécier, plus que tout, la présence de Dieu. C'est là qu'est notre joie la plus grande. Ce sera notre joie éternelle. Comme l'explique Saint Bernard, dont je vais vous parler très bientôt. Saint Bernard, c'est à la fin du mois, le 31 mars. Il l'explique dans son commentaire du Cantique des Cantiques, ce beau livre de la Bible, un peu difficile, mais beau. Dieu ne nous a pas créés, d'après Saint Bernard, pour que nous jouions le simple rôle de canaux dans son Église. Nous sommes de petits réservoirs, finalement, des bassins, c'est-à-dire que nous avons le droit puis le devoir de conserver, de goûter longuement les torrents d'eau vive que nous recevons du ciel, avant de les laisser déborder sur nos frères. Et Saint Bernard ajoute, un canal rend presque immédiatement ce qu'il reçoit, mais un réservoir, un bassin, quoi, au contraire, attend d'être rempli pour communiquer sans dommage ce dont il surabonde. Et dans l'Église d'aujourd'hui, nous ne manquons vraiment pas de canaux, mais de réservoirs. Oui, on manque de réservoirs. Heureusement qu'il y a les monastères. Et tous ces gens qui prient aussi, qui font oraison. Des mères de famille et des pères de famille, et même des jeunes. Oui, toute la tradition de l'Église proclame que l'oraison, c'est pas du temps volé aux autres. Et que nous avons le droit de nous asseoir aux pieds du Seigneur. Comme Marie, vous savez, qui prenait le temps de le faire dans la salle de séjour de Béthanie, cette petite ville toute près de Jérusalem où elle habitait avec sa sœur Marthe, qui, elle, était bien occupée à faire le ménage, à préparer les repas et à faire toutes sortes de bonnes choses pour Jésus. Il ne veut pas que nous l'aimions seulement de toutes nos forces aux heures de travail professionnel, ou quand on fait, au besoin, si on est dans les choses religieuses, qu'on fait du travail qu'on appelle apostolique. Mais il veut que nous l'aimions aussi et d'abord de tout notre cœur, dans l'intimité, dans la gratuité, d'un rendez-vous d'amour qui peut n'être que d'un quart d'heure, comme je vous ai dit, hein, où on peut avoir l'impression peut-être de perdre son temps. Mais pensez-y, est-ce qu'on perd son temps quand on se met sous les rayons du soleil? Non, on bronze et on reçoit, paraît-il, de bonnes vitamines, pourvu qu'on n'y aille pas trop et qu'on risque d'attraper un cancer de la peau. Il y a des gens qui disent qu'ils n'en ont pas envie. On trouve, pour la plupart d'entre nous, c'est vrai, plus de joie des fois, plus de satisfaction dans l'accomplissement de notre travail que dans nos moments de prière. Moi, j'ai de la difficulté à m'arracher à la lecture, à la préparation de ces émissions qui me prennent des heures et des heures, et puis de trouver le temps, mais je le trouve heureusement, un quart d'heure, une demi-heure. Puis la messe quotidienne, les activités de Marthe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça nous attire souvent davantage que cette espèce d'inactivité apparente de Marie qui s'assoit au pied de Jésus pour l'écouter. Il faut être lucide, ce qui nous empêche, au fond, de faire oraison. C'est qu'on s'imagine que nos occupations sont archi-importantes et nous sommes tous tentés d'en faire le but de notre existence, même si c'est du ménage. Une journée bien réussie, avons-nous tendance à penser, c'est une journée au cours de laquelle nous avons abattu beaucoup de besognes. Une journée où nous avons fait avancer nos affaires, où tout a bien roulé. Pourtant, le temps consacré à la prière. Ça nous apparaît souvent comme du temps perdu, et la plupart d'entre nous n'aiment pas perdre son temps. Hein. En tout cas, en priant, dit-on. Vous souvenez-vous de ce texte d'Isaïe, au chapitre 2? « Le pays s'est rempli de faux dieux. » C'est comme ça ici. Hein? « Les gens se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. » C'est là où la plupart d'entre nous sont rendus. Nous sommes rendus comme ça. Dieu ne nous reproche pas de faire beaucoup de choses dans une journée. Tel est souvent notre cas, si nous avons la chance de ne pas être au chômage, mais il nous demande de ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'activisme, c'est-à-dire dans cette espèce de mentalité ridicule qui consiste à évaluer une personne à ce qu'elle fait au lieu de l'estimer comme Dieu lui-même la juge à la qualité de son amour. Une personne alitée depuis 30 ans et qui est pleine d'amour a bien plus de valeur qu'une personne qui n'arrête pas de travailler et qui dort 3 heures. Si la personne qui travaille comme ça ne travaille que pour s'occuper ou faire de l'argent. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce qui ne compte pas. Ça ne se compte pas ce que Dieu aime. C'est la ferveur. La pureté de nos actes d'amour, ça se compte pas, ça. Nous pouvons obtenir un prix d'excellence en amour, alors même que nous n'obtenons pas de médaille olympique, ni même une petite mention pour notre profession, notre vie professionnelle. Il n'y a pas de mention, il n'y a rien. Je me souviens, quand j'ai quitté Radio-Canada, il ne s'est rien produit. Après 30 ans de service, on met des petites choses dans des boîtes, on en envoie aux archives, on rentre chez soi, puis il se passe rien. C'est comme ça. La vie est ainsi faite. Hein? C'est le Christ qui apprécie. Le Seigneur ne nous demande pas de réussir aux yeux du monde, mais d'aimer. Pas de souffrir non plus. Il ne nous demande pas de souffrir. Sœur Élisabeth de la Trinité disait bien vivre dans l'amour, m'éveiller dans l'amour, m'endormir dans l'amour. C'est beau. Les prophètes reprochent souvent Israël d'idolâtrer l'œuvre de ses mains. Nous méritons ce reproche, nous autres aussi. Lorsqu'on accorde plus d'importance à nos travaux qu'à l'œuvre qu'accomplit Dieu en nous. Or, l'oraison est précisément le moment où, au lieu de nous servir de nos mains pour agir, nous les joignons, nos mains. Nous les immobilisons pour rendre le temps d'écouter Dieu, nous redire sa tendresse. Et pour le laisser agir en nous, vous direz qu'il ne parle pas, vous verrez. Au terme d'une demi-heure d'oraison ou d'un quart d'heure, ce n'est pas notre travail qui a progressé, mais celui de Dieu. Nous lui avons donné la joie de nous pétrir longuement de ses mains comme le soleil qui nous bronze. Laissez-le prendre son temps, comme on dit. Dieu va prendre son temps. Or, justement, il y en a qui disent « je n'en ai pas le temps ». Mais c'est l'objection de beaucoup la plus courante. Et c'est vrai que dans une existence souvent surchargée d'activités, ben, la plupart des chrétiens vivent pendant des années avec cette erreur là, dans l'esprit. Ils disent « je peux vraiment pas soustraire un quart d'heure de mes journées à m'entretenir seul à seul avec Dieu ». Et voici qu'un jour, il découvre avec confusion que c'est bel et bien une erreur, parce que dans une journée de 24 heures, pensez-y bien, il y a combien de quarts d'heure? 96 quarts d'heure. Si j'en consacre un à la prière, il m'en reste 95. Je m'aperçois qu'en donnant approximativement à Dieu le centième de mes journées, il me le rend au centuple d'ailleurs. Et ce sont toutes mes autres activités qui en bénéficient, parce que quand on pratique la raison, ne serait-ce qu'un quart d'heure, bien, on fait tout le reste plus joyeusement, plus efficacement et même plus vite. Plus vite, oui. Chacun sait d'ailleurs qu'il finit toujours par trouver le temps d'accomplir les activités qu'il juge indispensables, comme d'écouter les nouvelles trois fois à télévision. C'est indispensable. Ah, ah. Mais soyons sérieux, il y a aussi les choses indispensables à l'équilibre personnel ou familial. Il y a le sport, du bricolage. Beaucoup de télévision, puis de la lecture un peu, hein, etc. Mais le jour où l'on reçoit la grâce de comprendre que la prière est à la fois un droit puis un devoir, on s'y met. Et encore faut-il persévérer. Oh, c'est peut-être l'un des plus graves problèmes. Il y a des gens qui disent « j'ai essayé », mais c'est trop difficile. Et effectivement, c'est pas facile de persévérer dans la prière, pas plus qu'il n'est facile de bien éduquer un enfant, puis de, disons, de jouer correctement du violon. Ou paraît-il d'aimer son conjoint, même c'est pas facile toujours, hein. Et tout ce qui est magnifique suppose un long apprentissage. Il faut accepter d'être apprenti avant d'être maître, hein. Plus on persévère dans la prière, ben, plus on a même l'impression de redevenir novice, d'en être encore à ses premiers balbutiements. Et en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas pour redevenir comme des petits-enfants, bien, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, pour faire face à cette difficulté réelle, il faut, d'une part, ne pas faire fi des méthodes de prière découvertes par nos aînés. Il y a des beaux livres là-dessus. Allez dans les librairies, feuilletez quelques livres, là, sur les méthodes mises au point. Puis, choisissez quelque chose. Il y a des méthodes mises au point depuis des siècles. Il y en a des plus récentes pour tous ceux qui ont exercé leur vie à pratiquer l'oraison puis la rencontre de Dieu. Au Centre Unitas, je vais présenter dans l'après-midi deux entrevues que j'avais tournées en Europe. Une avec Michel Tournier, ce grand écrivain dont on a dit qu'il était le plus grand romancier français au moment où j'ai fait l'entrevue. L'entrevue tourne autour de « La vie est faite d'absolu ». Et la deuxième entrevue, c'est Gilbert Cesbron, que beaucoup de gens ont lu et ont aimé. Vous savez, « Les saints vont en enfer »,« Chien perdu sans collier », il a écrit tellement de romans à succès. Et c'était un homme de grande foi et au service des pauvres. Il a son entrevue au fond, puisqu'il savait qu'il allait mourir. Il est décédé en 1979. Pour ce qui est de la prière, on peut chercher chacun sa manière originale de prier, comme on peut l'apprendre là-bas au Centre Unitas ou dans bien d'autres centres à Montréal, comme au Centre, mon Dieu, j'oublie, au Centre Christus. Les grands skieurs, n'est-ce pas, eux, ils finissent par adopter un certain style pour descendre une piste. Hein? On les a vus, ils gagnent par une fraction de seconde. Mais avant d'en être arrivés là, ils ont suivi une école de ski. On pêche par présomption, me semble, quand on s'imagine, sous prétexte que le Saint-Esprit est le grand maître de la prière, là, qu'on peut totalement se fier au Saint-Esprit, puis qu'on peut arriver à savoir prier sans aucune aide, puis en négligeant les conseils qui ont fait leur preuve dans le passé à travers les siècles. Combien de laïcs ou de religieux reconnaissent que, après avoir été à une école de prière, ils ont découvert en une semaine, oui, une semaine seulement, ce qu'ils avaient cherché en vain pendant des années. J'ai fait ça, moi, avec le chanoine Caffarel, à Troussure, en France, à la maison de prière de Troussure, près de Beauvais. Mais il est mort, maintenant. Il reste vrai que la prière chrétienne ne sera jamais le simple résultat d'une technique de concentration. C'est pas ça. Non. C'est pas une technique de méditation ou de relaxation, simplement. Non, en régime chrétien, le père spirituel ou l'accompagnateur spirituel n'est pas un gourou. Celui qui va nous enseigner pendant quelques jours, c'est pas un gourou. On vient essentiellement lui demander l'art de se laisser conduire, justement, par l'Esprit Saint, parce que lui seul, en définitive, enseigne à chacun la façon dont il doit dire adieu, Abba, Papa. Et lui seul peut nous donner un cœur d'enfant pour aller à Dieu avec la simplicité puis la confiance qui conviennent. Et si c'est pas possible de se trouver un directeur ou de suivre des cours parce qu'on habite trop loin de tout ce qu'il y a, il est très sage de feuilleter, comme je vous ai dit tout à l'heure, 3, 4 ou 5 bons bouquins, suivre les conseils des gens dans une librairie de livres religieux, puis d'en adopter un. Il y en a qui sont plus courts, ça vous convient peut-être plus. Il y a même des brochures qui sont très bien faites. Il y a des gens qui disent « Je ne sais pas faire silence, je ne peux pas pratiquer l'oraison », mais beaucoup se plaignent d'avoir l'esprit tout encombré de préoccupations. C'est normal quand on essaie de se mettre en présence de Dieu. Malgré tous leurs efforts, disent-ils, ils n'arrivent pas à faire le vide. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a les soucis de la vie quotidienne qui reviennent sans cesse. Ça empêche d'écouter Dieu. Ils ont l'impression de passer le plus clair de leur temps d'oraison à se battre contre des distractions. Ils en sortent épuisés, découragés. Mais ça arrive même aux grands mystiques, ça. Ils sont convaincus d'avoir perdu leur temps. On leur a dit qu'ils pouvaient intercéder en faveur de toutes les personnes auxquelles ils pensaient spontanément dans leur oraison. Mais là, ils se rendent bien compte que l'oraison devrait être autre chose que cette espèce de litanie d'intentions particulières, mentionnant des noms, et que ce genre de prière peut aussi bien se faire en pleine vie, là, en marchant, ou assis dans le métro, ou au milieu de toutes sortes d'activités, en lavant sa vaisselle, on peut prier pour tout le monde comme ça. Mais si l'on consacre un quart d'heure de sa journée ou plus à causer avec Dieu, c'est pas seulement, semble-t-il, pour lui redire ce qu'on lui a déjà dit au cœur même de son travail ou de ses loisirs, au hasard des personnes rencontrées. « Seigneur, merci pour tant de générosité, pitié pour cet ami en pleine détresse, pardon pour tant de méchanceté qu'on m'a faite. » Et puis, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, dit Jésus. Alors on ne le dira jamais assez. Hein. Prier à partir de la vie, à partir de ses rencontres fraternelles, les informations de la radio et de la télévision, c'est très bien. Il faut entraîner les jeunes à le faire, mais il est indispensable de leur apprendre aussi à prier d'une autre manière. C'est à partir de la Bible. Voilà le secret. Prenez votre prions en église du jour. Prenez la lecture de l'Évangile ou de l'Épître, ou même le psaume, et méditez à partir de ça. C'est à partir de la parole de Dieu, sans cesse relue et méditée, que je préfère, moi. Sinon, c'est toujours l'homme qui parle au cours de sa prière, soit pour demander, soit pour rendre grâce, soit pour implorer le pardon. Mais Dieu ne peut pas placer un seul mot, on dirait, dans ces histoires-là. Faut pas s'étonner qu'un homme ou une femme ne persévère pas dans l'oraison si on n'a pas pris l'habitude d'y écouter Dieu. Il faut pressentir que le message qu'on doit en recevoir est encore plus important que tous nos propres cris de détresse ou nos chants de louange. Prenez l'Évangile du jour, oui. C'est l'Évangile lu par le pape, les évêques, les gens partout, les missionnaires dans les fonds des pays les plus reculés. C'est le même Évangile. Or, la seule manière d'écouter la parole de Dieu et de la lire là où Dieu l'a déposée une fois pour toutes à l'usage de ses enfants, c'est dans la Bible où le prions en Église. Il y a là un recueil de lettres d'amour que Dieu a pris soin d'écrire lui-même dans la Bible pour que nous les relisions avec joie. Dans la suite des siècles jusqu'à aujourd'hui, le chrétien n'essaie pas de faire d'abord le vide mental pour écouter ensuite Dieu lui parler. Il commence par lire la parole de Dieu, il la relit, s'en imprègne. Ce sont les déclarations d'amour de son Seigneur et longtemps méditées et savourées qui remplacent peu à peu tous les souvenirs plus ou moins pénibles de sa vie quotidienne. Et plus exactement, car le chrétien ne cherche pas à s'évader du monde quand il prie, c'est sûr, mais plus exactement, ce sont les versets de la Bible, les paroles de l'Évangile, qui s'incrustent insensiblement dans sa mémoire et finissent par illuminer toute son existence. faut peut-être faire un tri, prendre ce qui vous sourit le plus. Mais les soucis sont toujours là, évidemment, qui nous distraient. Ils sont comme enveloppés par la tendresse infinie de Dieu qui est manifestée dans chaque page de la Bible. On voit par le fait même toute la distance qui sépare les techniques de vide mental enseignées ici ou là. On entend ça un peu partout, même à la télévision. Puis la voix royale, je l'appelle comme ça, la voix royale de la prière chrétienne, où le silence n'est pas un préalable indispensable, mais bien plutôt la conséquence logique d'une écoute paisible de la parole de Dieu. C'est pas faire le vide, c'est faire le plein. On voit aussi l'importance de la lecture spirituelle. La lecture spirituelle, les bénédictins pratiquent depuis 1500 ans, la Lectio Divina, pour persévérer dans leur raison. C'est très important. Bien sûr, le Père Voyot dit bien qu'il arrive que l'Esprit-Saint nous instruise en secret, mais si nous devons nous préparer à cet enseignement direct de l'Esprit-Saint et l'attendre en le désirant, nous n'avons cependant pas le droit de négliger d'alimenter notre foi par les moyens normaux, autant que cela sera nécessaire, dit-il. Et cela le sera toujours à un certain degré, puis en dehors des moments où Dieu y suppliera lui-même. Il existe des slogans par lesquels, évidemment, oh oui, je le dis, Satan essaie de détourner les chrétiens de la pratique de l'oraison. Je vous en fais mention de quelques-uns. Ils vont dire, on entend cette voix. Est-ce qu'elle vient de Satan ou simplement de notre imagination stupide et de notre paresse? Tu es trop âgé pour t'y mettre, voyons donc. C'est une erreur. Il n'est jamais trop tard pour commencer et trouver dans ses rencontres régulières avec Dieu le secret d'un bonheur inconnu. Inconnu jusque-là. Ah, il y a tellement de témoignages de chrétiens qui avouent n'avoir découvert que sur le tard le chemin de l'oraison quotidienne. Je pense, je vous avais fait une émission sur Georges Vanier, hein? J'en ai parlé. Le père de Jean Vanier. Lui a décidé de se mettre à l'oraison quelques années après que son épouse, Pauline Vanier, dont je vais vous parler le lundi, le 23, là, dans moins de deux semaines. Il suit les traces de sa femme. C'est en découvrant dans sa bibliothèque un livre tout couvert de poussière qui traitait du sujet puis qu'il n'avait jamais lu. Georges Vanier était alors ambassadeur du Canada à Paris. Et à partir de ce moment-là, il se rend tous les jours dans une église de Paris pour être sûr de ne pas être dérangé durant cette demi-heure-là. Il garde cette habitude de l'oraison quotidienne, même lorsqu'il est nommé gouverneur général du Canada à Ottawa. Et un exemple parmi d'autres qui nous rappelle que l'oraison n'est pas réservée à ceux qui ne sont pas écrasés de responsabilités. Il y en a d'autres qui entendent une voix qui vient peut-être de Satan, n'est-ce pas, qui dit « Tu n'as pas un tempérament fait pour la contemplation, t'es un homme, une femme d'action. » Bah, c'est une autre erreur. La contemplation n'est pas réservée aux gens calmes et aux tempéraments flegmatiques. Il y a beaucoup de saints qui, comme le curé d'Ars, étaient particulièrement nerveux. Il était nerveux, le curé d'Ars. On entend aussi le « Dans la prière, tu ne rencontreras que toi ». Oui, ça peut arriver dans certaines pratiques où il n'y a pas la foi profonde en Dieu, cette foi chrétienne. C'est confondre ça, une déviation possible de la prière, qu'on appelle la gourmandise spirituelle, avec la vraie prière authentique. Il est en effet très, très important de commencer son moment de raison en rectifiant son intention, si c'est nécessaire. Et moi, je trouve que c'est toujours nécessaire. Il faut toujours dire quelque chose dans ce genre-ci. « Seigneur, je ne viens pas chercher près de toi des consolations spirituelles. C'est toi que je cherche, oui, toi. Et c'est à toi que je veux plaire. Si tu m'accordes pendant cette demi-heure ou ce quart d'heure des élans d'amour qui me réjouissent, ben, d'avant, je t'en remercie. Mais si je reste sec tout au long de cette oraison, je ne me désolerai pas. Ne t'en fais pas, Seigneur. Rien ne peut me séparer de ton amour. Pas même l'aridité spirituelle. On peut signaler enfin un curieux sophisme par lequel, je répète, Satan, le menteur par excellence, il me fatigue, arrive à détourner de l'oraison des milliers de chrétiens. Il a déjà réussi à me détourner de l'oraison. Il n'est pas fou, hein? Si l'oraison était une activité importante, dit-on, dans la vie chrétienne, bien beaucoup de chrétiens ne manqueraient pas de s'y livrer. Or, c'est pas le cas. Ce n'est donc pas aussi important que le prétendent les maîtres spirituels, hein, c'est la voix qu'on entend. Non, du bord. C'est pas nécessaire que je fasse ça. La plupart des gens le font pas. Mais ce raisonnement, c'est un véritable attrape-nigaud. Puis Satan aime ça, ce genre d'attrape-nigaud. Enfin, notre paresse aime ce genre d'attrape-nigaud. Si vous voulez pas dire Satan, disons notre paresse, notre nonchalance, notre négligence. Les deux premières propositions de ce raisonnement sont vraies, mais on en tire une conclusion absolument fausse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui font l'oraison régulièrement. La conclusion à en tirer, c'est simple. Ne soyons pas étonnés qu'il y ait si peu de chrétiens fervents dans notre Église. Ne soyons pas surpris que l'Église semble en pâtir et semble plutôt un peu pas drôle, des fois. Il me reste à indiquer brièvement ce qu'est l'oraison et ce que ça donne quand on la pratique chaque jour. Ce que ça donne? Oh, il y a deux façons de justifier la prière. Ce serait le sommet des activités de loisirs auxquelles on s'adonne pour le plaisir. Mais comme c'est vrai. À condition d'ajouter qu'elle est également le sommet de nos devoirs de reconnaissance. Car il est parfaitement normal, il me semble, de rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il nous donne. On le dit à la messe, cela est juste et bon. De rendre grâce à Dieu toujours et en tout lieu, hein, cela est juste et bon. Or, la prière est éminemment utile, répondront les autres. Car, si elle ne produit rien, elle permet à Dieu d'exercer en chacun de nous une activité fondamentale, c'est notre salut, notre libération. On n'insistera jamais assez sur la gratuité de la prière. Aussi longtemps qu'on y voit que le moyen privilégié de mieux assurer nos activités familiales, professionnelles ou apostoliques. Elle n'aura pas la place d'honneur dans notre agenda. Elle restera en quelque sorte une espèce de séance d'assouplissement, là, à loger quelque part dans une journée ou dans une semaine pour une plus grande efficacité de notre vie. Mais elle n'aura jamais la gratuité d'un rendez-vous d'amour. C'est ça qui compte, hein? Et pour faire raison, ben, il faut avoir compris définitivement que nous ne sommes pas des mercenaires, des esclaves dont le Seigneur n'apprécierait que, disons, la rentabilité apostolique, là. Dieu ne compte pas que là-dessus. Il a fait de nous ses amis. Oui, nous sommes les amis de Dieu, nous sommes ses enfants, nous sommes les membres de l'Église, son épouse. Alors, il nous a donné un cœur. Pourquoi? Pour que nous goûtions son amour. Ça, il faut comprendre ça jusqu'au tréfonds de son être. Et l'oraison, bien, elle ressemble au devoir de s'asseoir, dont beaucoup d'époux chrétiens découvrent de plus en plus l'urgence au milieu de leur existence familiale où ils sont trop occupés. Ils se rendent compte qu'ils ont le droit, eux autres, les époux, puis le devoir, hein, de faire régulièrement ce qu'ils n'hésitaient pas à faire au cours de leur fiançailles, c'est-à-dire de converser à bâton rompu, pour le simple plaisir d'être ensemble. Et plus nous aurons le courage de brûler du temps pour Dieu, plus nous nous apercevrons qu'à long terme, tous les secteurs de notre vie en bénéficient. Et voici quelques-unes des retombées heureuses sur notre existence d'une pratique fidèle de l'oraison. La prière fait que s'établit en nous une paix profonde au plus intime de notre cœur. Et le fait de passer là des longs moments à rejoindre Dieu dans le fond de notre cœur, ça nous habitue à ne plus vivre toujours à la superficie de nous-mêmes. Parce que dans ce temps-là, on est ballotté par les circonstances. Et alors, on est tout heureux quand les événements correspondent à notre attente, plus ou moins démoralisé dans le cas contraire. Mais Dieu nous fait goûter la paix, lui, qu'il donne à ceux qui ont pris la décision de se reposer vraiment en lui. Une paix dans les profondeurs de notre être. C'est compatible avec les déceptions inévitables de notre existence, c'est sûr. Puis la prière aussi. Bien, elle nous donne une autre façon de travailler. Au lieu de me précipiter gloutonnement sur mon travail, avec le désir de mettre les bouchées doubles, je l'accomplis plus calmement. Et je médite, sous le regard de Dieu, dans la joie de savoir qu'il est tout près de moi. Et même en moi, pour m'aider à le réaliser, et du coup je travaille mieux, plus efficacement, puis la prière, l'oraison, nous permet d'avoir un autre regard sur autrui. Hein? Parce que là, on est libéré de l'obsession du rendement. Puis on se laisse beaucoup plus facilement déranger par nos frères et nos sœurs, au milieu de nos activités. Et c'est dans le fond de notre cœur que nous prenons l'habitude de les accueillir alors, puis de les écouter, puis de les aimer. Et à force de nous ouvrir à Dieu, eh bien, le cœur s'élargit et parfois, C'est sûr, la fatigue domine, mais on montrerait sans peine que l'habitude de l'oraison donne également à tous les chrétiens et les chrétiennes une autre façon de réagir dans les épreuves, de se souvenir aussi de nos échecs, on s'en souvient pas de la même façon. Puis on bâtit des projets par rapport à notre vie, notre mort, parce qu'on devient sûr d'être aimé de Dieu. C'est Mère Teresa de Calcutta qui disait « Il n'est pas possible de s'engager dans l'apostolat direct si l'on n'est pas une âme de prière ».